bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez bienvenue avec Leïla Tobo.
Bonjour à tous.
Daniel Morin,
eh bonjour.
Tom Villa, bonjour. Jérémy Crédville, tout à l'heure Tanguy Passureau et nos invités Leïla Bettier et Géraldine Nakache.
Bravo.
Bonjour Géraldine, merci Bonjour. D'être à l'heure contrairement à Leïla, mais on ne soulignera pas son absence.
Ah ouais, ça serait pas chic.
C'est pas sympa.
Non, on est pas, ça serait pas élégant, moi je dirais même.
C'est pas sympa.
Et c'est pas notre genre.
Non.
Mais on est ravis car non seulement vous jouez, mais vous réalisez ce film « J'irai où tu iras ». Qu'est-ce que l'on peut en dire? Que c'est une histoire de frangine, que c'est un rapport de père et de fille, que c'est l'envie de réussir une carrière...
Dans la lumière.
Dans la, ouais, et dans la frustration, ça dépend.
Ça dépend dans quelle lumière vous êtes, en fait.
Ouais. Le point de départ, c'était une histoire de frangine.
Ouais, c'était plutôt une histoire de famille même, au sens plus large. Une famille qui, évidemment un peu dysfonctionnelle, comme ça. Un papa à poule qui est aussi, du coup, de fait, une maman à poule. Et puis ces deux sœurs qui n'ont pas beaucoup d'écart, qui aujourd'hui, avec le temps, savent plus vraiment s'accorder, s'entendre.
Ouais, qui se parlent peu d'ailleurs.
Très peu.
Se voient peu.
Se jugent beaucoup par contre.
Ce qu'on voit dans la bande-annonce. D'ailleurs, il y a cette espèce de tension avec on va faire 4 heures de route. On va quand même pas se parler pendant 4 heures.
Ouais, c'est ça.
Le truc inimaginable. elles sont l'une est totalement tournée vers les autres puisque elle est dans le milieu médical. L'autre est plutôt tournée vers elle parce qu'elle veut exister, briller.
Alors c'est assez étrange parce que Leïla interprète un rôle d'art thérapeute qui travaille avec des gens qui ont Alzheimer. Donc effectivement, elle est tournée vers l'autre, mais elle travaille avec des gens qui oublient. Donc ça laisse pas vraiment de traces. Là où Valie, elle est chanteuse de prestations privées, elle est dans la lumière, en robe à paillettes. Elle chante devant les autres.
Chanteuse de prestations privées.
Bah, c'est ça.
J'aime bien.
C'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est comme ça qu'on dit.
De mariage, de prestations.
Ouais, mais non, parce que
le
mariage
bisbus,
de tout, baptême.
Tous les événements festifs.
Chanteuse de prestations privées.
Tu connais ça, ok, évidemment. Et ça s'appelle.
Ouais, en fait, j'en ai tellement suivi pendant l'écriture du film que ça me viendrait pas à l'esprit de les appeler autrement, puisqu'elles se nomment comme ça, que c'est leur statut. Des CPP.
Chanteuses de prestations privées. Tout le monde appelle ça les CPP.
Les fameuses CPP.
Qui rêvent de devenir choriste.
Ou pas. Enfin, elle, oui.
Elle, en l'occurrence, elle rêve de devenir choriste de Céline Dion. Ouais. D'ailleurs, elle est sélectionnée au dernier tour, donc elle a toutes ses chances.
Et alors, ça, là arrive le deuxième point. Pourquoi Céline Dion? C'est-à-dire, est-ce que c'était. Parce que. Entre le titre, J'irai où tu iras, on a bien compris. Ça aurait pu être n'importe quelle autre chanteuse.
Parce que d'abord. J'adore son répertoire depuis que j'ai 15 ans. Et surtout, j'aime le destin. J'aime cette petite fille cadette d'une famille de 14 enfants, qui chante dans son salon, qui a le visage qu'on lui connaît, qui finit à Las Vegas.
C'est une manière délicate de dire qu'il y a eu quelques...
Qu'elle ressemble à un fer à passer.
Non, mais parce qu'elle le dit elle aussi. C'est-à-dire qu'elle fait la rencontre de ce Pygmalion qui est René, qui la transforme, mais in and outside, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc qui la transforme.
Qui la métamorphose,
mais parce qu'elle en a besoin. Quand j'écrivais le film, je me renseignais vachement sur elle. À l'époque, la presse l'appelait Canine Dion. Je sais pas si vous imaginez.
C'est violent.
À 14 ans.
Des ratiches.
C'était dingue, quoi. Et elle finit à Las Vegas avec un parcours incroyable.
Parce qu'on dit ratiche, non?
Non. On dirait ratiche, c'est méchant. Je me suis dit, la vanne, vous la faites dans le fiche.
Ouais, aussi, moi je trouve ça hyper violent. Elle a traversé des tsunamis et elle arrive là.
Mais vous n'êtes pas tendre avec elle non plus dans le film, c'est-à-dire.
Aussi, moi j'aime tellement que j'ai l'impression de l'être vraiment. Mais je ne vais pas m'en défendre si vous avez senti quelque chose.
Non, il y a la vanne sur les dents, par exemple.
Mais parce que, encore une fois, ça existait dans la presse. C'est-à-dire que oui, il y a effectivement une candidate qui a une implantation dentaire particulière, une candidate aux auditions, et qui dit qu'elle ne se fera pas refaire les dents avant de savoir la réponse à ces auditions-là. Parce que pour elle, c'est un porte-bonheur. Céline Dion avait cette dentition-là lors de l'Eurovision, elle a gagné pour la Suisse.
Mais aussi, c'est un parcours à la Céline Dion. Si tu réussis, on te refait les dents et tout ça. Elle respecte aussi le.
Il y a quelque chose au niveau dentaire, c'est sûr.
Je suis très sensible à ça. Ouais.
Paillettes Céline dedans.
Vous avez très bien. Vous avez rencontré Céline Dion?
Je l'ai rencontrée, mais comment vous dire? Elle m'a pas rencontrée.
Vous étiez dans la salle, quoi.
Non, mais j'étais à la Fashion Week. Il y a des photographes qui m'ont, comme ils connaissaient l'existence de mon film, qui était évidemment pas sorti. J'avais même pas commencé la promo ou la tournée en France. Donc, ils ont dit, elle a fait un film qui s'appelle J'irai où tu iras. Et puis, ils me placent à côté d'elle. Et puis, je me trouve collée à elle. Je suis hyper émue, premier degré, parce qu'encore une fois, je l'aime, premier degré, vraiment. Ouais. Donc, du coup, j'arrive pas à sortir un seul mot de ma bouche. J'ai envie de me mettre des coups de poing. Et je me dis, dis-lui quelque chose, mais en une seconde, je suis assise à côté d'elle. On prend une photo, je me lève, salut, au revoir. Et puis ça y est, je n'ai rien dit, pas un seul mot.
Aïch.
Non, mais c'était terrible.
Donc elle n'a pas vu le film?
Non, je pense pas, je le saurais, non.
Est-ce qu'il faut demander l'autorisation morale de se servir?
Pas morale, mais il y a comme,
son dentiste.
Ah, non, toutes les informations qui sont dans le film sont des informations publiques, donc j'avais rien à demander. En revanche, dès que j'utilise son image ou un titre, bien entendu, son service juridique.
C'est quelqu'un. Il y a clip, il y a photo.
C'est ça. Mais après, je sais pas si elle est au courant, mais je comptais sur vous, Nagui, en fait.
Pour la prévenir.
Ouais, j'ai un plutôt, non?
Elle est déjà venue ici?
Oui, est-ce qu'elle est déjà venue?
Non, on a fait Taratata ensemble, oui.
Et Taratata, elle est venue,
elle était super sympa.
Elle était trop mignonne.
Non, elle est super sympa.
Elle est super sympa.
Vous avez parlé des trucs et tout?
Mais ouais,
mais
pas, alors pas de vous, j'avais pas vu le film avant. Non, elle est très cool.
Parce que là, elle va venir en France.
Elle fait une tournée encore.
Et alors, la vieille charrue.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Non, en juillet.
Et la voici.
La vieille charrue.
Laïla Bekti. Ça va, Laïla?
Ouais, mais j'aurais aimé que ce soit Géraldine qui arrive en retard.
Non, parce que c'est une tradition chez vous. Hein. C'est pas la première fois que vous venez en retard dans l'émission. Mais c'est pas grave.
Allez, affichez.
La prochaine, c'est une heure de colle. C'est pas grave,
tout va bien.
Elle était en retard aussi, Géraldine?
À peine, ça s'est même pas rendu compte. On est à l'heure, tout va bien. On terminera à midi et demi, vous inquiétez pas. On va jouer ensemble, c'est l'interro. Allons-y. Des questions sur Laïla Bekti et sur Géraldine Nakache. Après, nous reparlerons de Géré ou Thuram. On a pratiquement tout dit. Hein.
Soyez détendus, c'est fait la preuve.
On a fait une interview dentiste, Laïla, juste pour te mettre.
Pourquoi Géraldine Nakache n'a-t-elle jamais passé son permis de conduire?
Ah là là. Elle a peur, elle ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche.
Non.
Ses pieds touchent pas les pédales.
Non.
Parce que.
Faut passer le code.
T'as dit quoi, Jérémy?
Ses pieds touchent pas les pédales.
Et ça me vexe parce que, comme il est assis à côté de moi, donc il voit ma taille.
Non.
C'est pas ça?
Elle a une phobie, elle a déjà cartonné plein de fois des voitures.
Elle a peur de quelque chose.
Le plastique dans. Non.
De la vitesse.
Non.
Des roues.
Non.
Des piétons.
De pas freiner.
Des radars.
De pas freiner.
Non.
Des Parisiens.
Elle ne passe pas le permis parce qu'elle a peur de quoi?
Passer les vitesses.
Non.
De passer les examens. D'avoir un accident. Des policiers. De passer les examens.
De rouler sur une autoroute.
De l'autorité.
De passer en examen. D'être mise en examen.
D'être arrêté. D'avoir une amende.
De finir en prison. D'être torturé.
Non.
De conduire.
Mais non.
De prendre de la
voiture.
De boire.
D'acheter une voiture.
Elle a peur de passer le permis. Enfin, elle ne veut pas passer le permis.
Ah, parce qu'elle a peur de le rater.
Exactement.
Je savais.
J'ai dit depuis le début.
C'est terrible. Ça sert à rien.
Ah, c'est vrai. C'est fou ça.
Non, c'est trop tard.
Pourquoi?
Bah, c'est-à-dire que maintenant, je suis un peu. J'ai plus,
elle a un chauffeur.
Non, c'est pas. Bah, j'aimerais bien, mais. J'ai un âge où rater, c'est difficile.
C'est là qui conduit en même temps dans le film.
Pour cette raison-là aussi.
Aussi.
Non, mais tout ce qui est autour. Mais c'est un sujet vraiment.
C'est un truc de ridicule, c'est-à-dire que vous vous dites,
j'ai peur de le rater, j'ai peur de pas l'avoir, et puis je suis pas bien dans une voiture.
C'est un vrai dossier entre nous.
Pardon?
C'est un vrai dossier entre nous. J'arrive beaucoup.
Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas essayer?
Parce que j'ai essayé, mais après, je pensais que j'allais arriver dans l'auto-école, qu'on allait dire, tout le monde dit bonjour à Géraldine, on allait se parler,
c'est les alcooliques anonymes, ça.
Bah, du coup, faut que je bois, alors.
Sinon, faut le passer aux États-Unis, je crois que c'est plus facile.
Pourquoi?
Et puis, c'est en un quart d'heure. Vous avez.
Je veux pas qu'on me le donne, parce que moi, j'ai peur.
Ah, d'accord.
Donc, je veux même pas qu'on me le donne, je veux le passer en vrai et tout.
Allez, question sur Laïla Bekti. La grossesse de Laïla s'est très bien passée, mais elle aurait préféré quoi?
Que ça passe plus vite.
Exactement.
Ah waouh. One shot.
Que ça ne dure. One shot, c'est son surnom. Vous connaissez bien.
Après moi les blagues sur les ratiches.
Ça c'est une dame bilingue. Si vous voulez que ça ne dure que 6 mois.
Ouais, même 5. C'est très long.
Dans une vie, 9 mois, c'est rien.
Non, c'est long. Je suis de nature impatiente, mais là encore plus. Et je trouve que vraiment la grossesse. Mais là, je vais essayer de faire un truc. Ouais. Non.
Ça, on est bien.
Quelle horreur.
Merci. Allez, au revoir.
Non, je vais essayer de. Je sais pas. J'aimerais bien voir des grands médecins qui. Peut-être que c'est peut-être possible.
De quoi? De faire en 5 mois?
Non, non. Alors, il y en a une qui.
Allez, aux États-Unis!
Allez, mais c'est faisable, dans le film. L'homme pressé avec Alain Delon, c'est ce qu'il fait faire à sa compagne.
Un enfant rapidement, c'est ça?
Ah ouais?
C'est-à-dire?
Pas en 5 mois.
Comment? Peut-être moins même.
Mais non.
Enfin.
L'homme pressé, Alain Delon.
N'importe quoi. Qu'est-ce qui a subjugué Géraldine quand elle a rencontré Céline Dion lors d'un concert à Paris? Parce que vous avez parlé de Fashion Week, mais vous voulez rencontrer un concert.
Avec Laïla.
Voilà.
Son énergie,
non.
Sa pêche,
sa gentillesse.
Non. Quand je dis non, ça n'enlève pas la possibilité de se répondre, mais il y a vraiment quelque chose.
C'est chaussure.
Son accent.
Non.
C'est choriste.
Non.
Sa méchanceté.
Non. Sa disponibilité, au contraire, son sourire pour tout le monde.
Son accent.
Son professionnalisme à l'américaine.
C'est quelque chose de physique.
C'est physique.
Ses yeux.
Ses cheveux.
Exactement.
Ses yeux.
Exactement. Le regard.
Le regard.
Ouais. En fait, elle vous plante. C'est pour ça qu'elle a pas besoin de vous dire grand chose, parce qu'elle vous plante son regard dans les yeux. Vous avez l'impression que vous avez passé une semaine avec elle. Je sais pas comment vous expliquer. Non, mais non, c'est mais tellement intense que vous vous dites pas. Vous vous dites
c'est
pas,
long comme une grossesse.
Non, mais il y a des regards comme ça qui, par moments, peuvent être gênants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous fixent, qui ouvrent comme ça grand les yeux, qui.
Qui bavent.
Mais alors, elle, c'est. On est.
Qui ont l'air fou, quoi.
Sur le blanc, un père.
Mais là, c'est gênant.
Non, mais elle est pas gênante, étrangement. Elle est intense. Elle est super intense.
Non, mais on était hyper timides. C'était n'importe quoi.
C'était mignon, vous avez fait une photo ensemble?
On a fait une photo, évidemment.
Cool.
Et on l'a dans notre téléphone.
Cool.
Une vraie preuve d'amitié pour Leïla Bekhti. Elle dit, on est vraiment amis toutes les deux. La preuve, quoi?
On se dispute.
On peut se réconcilier, on peut se dire ce qu'on pense.
On peut dormir dans la même chambre.
Oui, mais ça c'est pas.
Oui, ça va, toi, t'as des morts particulières, mais c'est pas
normal.
On se fâche jamais définitivement, en fait.
Non.
Ah oui, finisse les phrases l'une de l'autre.
Non.
On peut se fâcher.
Ça, c'est vrai que c'est un joli signe.
C'est en lien avec les parents?
Non. C'est en lien à ce qui se passe entre elles. Si elles sont ensemble, elles sont capables d'être dans une situation qui prouve qu'elles sont vraiment amies.
On les confond.
Non.
Bah, Joby Joba, quoi. On sort du taxi en cours.
Non.
Il y en a une qui serait prête à accoucher pour l'autre.
Non.
C'est ça. Ce serait une belle preuve.
Non. Et d'ailleurs, quand j'ai lu cette phrase, pendant deux secondes, j'ai dit, c'est n'importe quoi. Et après, j'ai dit, mais elle a tellement raison. Mmh. C'est un vrai signe d'amitié.
C'est un indice.
Ouais.
Elles sont fatiguées en même temps.
Non.
Elles sont fatigantes en même temps.
Non.
Ne pas parler.
Pas loin.
Elles n'ont pas besoin d'échanger. Elles n'ont pas besoin d'échanger pour être heureuses ensemble, quoi. Ça suffit.
C'est l'inverse.
Elles ont besoin que de.
Elles s'arrêtent jamais de parler.
Elles
ont toujours un truc à se dire.
Non, elles sont capables de rester ensemble.
Sans parler.
C'est ce que j'ai dit.
Ouais, mais c'est plus que sans parler.
Sans rien dire.
Plus que sans parler.
Sans se voir.
sans sentir.
On va faire tout le sens. Elle communique comme les dauphins, en fait.
Juste être là ensemble, quoi. Imagine. Être là. La présence de l'autre.
Elles n'ont pas besoin d'être ensemble. Attends, elles n'ont pas besoin d'être ensemble pour être ensemble.
Quand il n'y a aucun intérêt, c'est ça.
Elles s'emmerdent ensemble.
Exactement.
Ah, ok.
Ah, s'ennuyer ensemble.
D'où leur venue à l'émission.
On s'ennuie, quoi. Ouais. Voilà,
oui, mais ne rien dire, ça peut être le côté taiseux, caché, machin. Et s'ennuyer ensemble et rester côte à côte, je trouve ça fort comme preuve d'amitié. Non, mais vraiment.
On a des heures de route sur l'ennui.
Il y a aucune, est-ce qu'il y en a une des deux qui systématiquement cherche à casser l'ennui en disant, et si on faisait ci, et si on faisait ça, ou alors vous vous laissez partir toutes les deux dans
l'ennui? Non, pas du tout. Géraldine, au tout début, elle avait beaucoup plus d'énergie que moi, et je l'ai amenée vers
une mollesse, vers une forme de mollesse.
Non, mais on est deux bonnes flemmardes, et puis, non, mais c'est chouette quand on n'a plus besoin de combler.
Ouais,
on comble avec des gens qu'on connaît depuis un quart d'heure.
Exactement.
Parce que c'est vrai.
Géraldine avoue être maniaque, mais voilà. Comment se traduit cette manie dans la vie?
Le ménage.
Exactement.
Ouais.
Obsessionnel du ménage, vraiment?
Moi, je trouve.
Ça, c'est un gros oui.
Ouais. Voilà.
Ouais. On n'a pas fini de manger, qu'elle est déjà en train de nettoyer la table,
C'est
des trucs que je ne supporte pas. Mais vraiment.
Quand on te met du liquide vaisselle dans ton yaourt.
Sur un plateau.
Elle nettoie les pots.
Sur un plateau de cinéma, ça donne quoi?
Mais non, mais le plateau de cinéma, c'est recréer la vie. Et recréer la vie, c'est effectivement. Faire en sorte que ça bouge, qu'il y ait du mouvement. Mais en plus, c'est très étrange, parce que j'adore quand c'est... J'adore les aspérités, j'adore les trucs un peu organiques et tout, mais j'ai besoin que ce soit propre, je sais pas expliquer pourquoi.
Ça vient d'où? Non, on sait pas.
Ça vient de là-bas, je sais pas. De loin, de très loin.
Ça vient de là.
Et dernière question sur Leïla, pourquoi ne serait-elle pas très heureuse si elle travaillait à Radio France?
Est-ce qu'il faudrait bosser?
Non.
Est-ce qu'elle a des expressions de voix?
Non.
C'est en lien avec la
voix? C'est loin de chez elle?
Non.
Elle
pourrait pas travailler ici dans un bureau à Radio France.
Bah, bureau, horaire, tout
parce
ça.
Parce que c'est rond.
Non.
C'est dans le 16e?
Non.
C'est un rapport avec quelqu'un qui travaille à Radio France?
C'est un rapport avec.
C'est un bon truc, celui-là. Ouais, ça pourrait marcher.
Un peu l'hygiène.
un peu l'hygiène.
Il y a des rats, il y a des rats.
Exactement.
Les phobies de dingue. Mes phobies qu'elle pleure.
Faut pas venir.
Il y a des souris.
Arrête.
On en a reçu deux.
Non.
On en a reçu deux la semaine dernière.
On en a une petite dans le bureau.
En fait, faut pas habiter Paris.
Là, là, là.
Juste à côté.
Non, moi, je suis comme vous, c'est une petite souris. Mais elle, vraiment, c'est communicatif son angoisse. Parce que j'ai dit cette phrase, c'est une petite souris, ça va. Et il y a des larmes, ça tremble et tout. Ça, mais ça s'appelle une phobie. Hein, en même temps.
Et qu'est-ce que vous avez peur qu'elle vous fasse?
Ah non, ça me faisait vraiment. J'ai déménagé une fois.
Ça fait rien.
À cause de ça.
Le film d'horreur qui vous a le plus marqué, Ratatouille.
Je l'ai même pas vu. C'est vrai, ça.
Alors parlons de ce film Gérer où tu iras, troisième long métrage. Cette fois-ci, vous le faites totalement seul.
Ah oui. Alors, non, mais c'est parce que.
Et voilà, pourquoi?
Parce que j'ai vieilli.
parce que vous savez mieux ce que vous voulez.
Non, je crois pas. C'est ma collaboration avec Hervé sur les deux précédents films ne m'empêchait pas de savoir ce que je voulais. Je pense que là, d'abord, après New York, j'ai eu besoin, moi, de faire un peu l'actrice pour les autres aussi, voir si j'étais vraiment actrice, pas que dans mes propres films. Du coup, il n'était pas question pour moi de bloquer le travail d'Hervé. Et puis parce que, voilà, ce sujet de la famille, il devenait de plus en plus obsédant pour moi, et donc peut-être un peu plus... autour de mon nombril, il fallait que j'aille voir ce qui se passe en fait, et que j'assume d'y aller seule aussi.
C'est presque votre vrai premier film, comme
c'est parce finalement,
qu'on dit,
souvent
que c'est auto. Non, on dit que les premières œuvres sont très autobiographiques,
oui,
que ce soit les romans
aussi,
ou des films.
C'était le cas aussi pour Tout ce qui brille, mais c'est vrai que
plus encore
là,
celui-là.
C'est-à-dire qu'en tout cas là, je sais pas si c'est une question d'auto. Puis quelque part, j'ai l'impression justement que ça me ressemble plus parce que je suis parvenue à y mettre plus de distance aussi par rapport à mon sujet, je veux dire. Et du coup, ça c'est aussi un travail qui est très personnel, de pouvoir mettre de la distance, digérer les choses et raconter des choses qui vous ont traversé de près de cette manière.
C'est une comédie dramatique. On est dans l'émotion d'une manière extrêmement forte. Vous êtes même avec Patrick Timsit. La première avant de chanter.
C'est super papa.
Les non-dits, juste un sourcil, une paupière qui se lève, vous faites passer des tonnes de choses.
Vous êtes d'une justesse dans le sourcil.
Ouais. Non mais sans blaguer.
Ah, merci.
Sans blaguer, c'est-à-dire qu'il y a deux trois scènes justement où on sent que sa sœur est un peu son boulet, mais qu'elle y va pour faire plaisir à son papa. Et il y a des non-dits qui sont extrêmement forts, des petits sursauts quand elle chante dans la voiture qui sont à pleurer de rire.
Faut dire que l'autre est dingue, enfin j'ai pas l'air.
Elle est dingue. Et puis il y a Patrick Timsit et Pascal Arbillot, les deux d'ailleurs, qui sont dans l'émotion. C'est-à-dire que c'est là où on voit que vous vouliez beaucoup jouer sur les émotions dans le.
C'était
dans
pas
le
tant jouer dessus, c'était surtout que c'était le moment de raconter ces choses-là et que ces choses-là, c'est-à-dire le temps qui nous reste, les gens qui nous restent, qu'est-ce qu'on fait de chacun de ce qu'on nous laisse. C'est impossible pour moi de décrire un film autrement que par le prisme de la comédie parce que c'est mon bouclier. Mais il fallait aussi que j'y aille, que je me confronte justement, que j'y aille vraiment frontalement et que je me dise, ok, finalement, oui, quand c'est de la comédie, ça peut être dramatique aussi. Et il faut y aller quand j'ai dû me confronter à ça. Et du coup, j'ai pas forcément voulu, c'est que ça a glissé vers cette couleur-là.
Alors, vous êtes allé chercher des ressorts, des ficelles pour accentuer la maladie du père, le décès de la mère. Enfin, après, on peut rajouter tous les drames possibles et imaginables, mais à quel moment on s'arrête ou jusqu'où on va?
Non, c'est-à-dire que la question, c'était pas de me dire à quel moment je m'arrête. La question, c'était plus de me dire à quel moment. Qu'est-ce que je veux dire de ces filles-là? J'avais besoin, j'avais envie de raconter une rencontre entre ces deux sœurs, quelque part, et je voulais la mettre dans un temps qui était assez réduit, précisément pour pas qu'on se dise « Ah, elles ont changé ». Je m'en fiche de savoir qu'elles aient changé, je veux juste savoir qu'est-ce qu'on fait au moment où on comprend quelque chose.
Non, et que l'une des deux accepte pas totalement le décès de sa propre mère.
Les deux n'acceptent pas. En fait, l'idée, c'était de se dire « Ok, ces deux-là vont se rendre compte qu'elles se ressemblent. Mmh. Elles sont juste pas du tout...
Elles communiquent pas de la même manière.
Elles communiquent pas de la même manière et elles n'ont pas la même enveloppe. Elles ont reçu le même amour, identique. Et finalement, elles ressentent les choses plutôt de la même manière. Et elles s'en rendent compte que quand il y a un tiers. Sauf que comme elles ne se fréquentent pas, elles peuvent pas être mises en... Jamais elles sont entourées d'autres de personnes.
Et c'est un peu comme là maintenant. C'est-à-dire qu'il y en a une qui se tait et l'autre qui parle. C'est aussi ça dans le film. Il y en a une qui chante. Non, mais c'est vrai, vous êtes un peu la taiseuse.
Non, pas du
Leïla
tout.
Leïla dans le film.
Non, bah, et ben je suis oui, dans le film, ouais.
Oui.
Mais c'est drôle parce que dans la vie, je suis beaucoup moins taiseuse que Géraldine.
Ah ouais, c'est moi,
Géraldine, elle est plus sauvage, elle est plus méchante. Elle est plus elle est plus sur elle. Moi, je suis quelqu'un de très généreux. Je suis quelqu'un de très lumineux.
Mais elle aime bien les souris. Donc
Elle est grosse, c'est
vrai, dans le film, c'est ça.
Ouais, j'ai adoré au début, j'ai eu très peur du rôle de Mina parce qu'effectivement, c'est tellement
c'est dur de jouer quand on n'a pas de texte.
C'est non mais c'est vrai.
C'est vrai.
C'est exactement ça. Et puis surtout, j'avais peur de. Je suis quelqu'un de tellement. Pour le coup, moi, j'ai besoin de dire, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de. Dès qu'il y a quelqu'un en face de moi qui parle pas, que j'arrive pas forcément à cerner, ça me glace le sang. Je sais pas forcément quoi faire avec ça. Et du coup, on a vachement parlé avec Géraldine et puis elle m'a dirigée dans ce sens-là, mais c'était de pas tomber dans l'écueil de vu qu'elle parle pas, elle a forcément pas d'émotion et elle a forcément pas.
Ah
de...
Non, ça c'est clair.
Mais c'était au début, c'était ouais, j'appréhendais un peu. Ouais.
D'ailleurs, c'est ça qui est fort. C'est vous qui parlez le moins au début, parce que les émotions après vont être partagées. Mais au tout début, on a l'impression que c'est vous qui avez toute la chape de plomb des émotions sur vos épaules et que l'autre est totalement dans les paillettes, totalement dans la vie dorée, inconsciente de ce qui
exactement.
Se passe autour
d'elle. Elle est assez inconsciente, naïve, elle est assez. Et puis on a effectivement eu le même amour, mais à force de ne jamais montrer mes émotions, notre père pense que je suis forcément plus forte que ma sœur. Donc on se donne toujours un rôle...
Comme si vous étiez l'aînée, en plus. C'est ça qui est marrant, c'est que tout d'un coup, on a la sensation que celle qui aurait le cœur fermé à très tôt, pour reprendre une citation du film, c'est forcément l'aînée.
Qu'on estime être plus fort que l'autre. C'est jamais vraiment à la place. Non.
Mais Ataratata, c'est pas toi qui faisais les cœurs.
Non, il y avait Carole Frédérics qui est avec Jean-Jacques Goldman, ouais. Ah, ça a mis le feu. Tu vas sur mytaratata.com, tu le reverras. J'irai où tu iras, c'est le titre du nouveau film de Géraldine Nakache avec Leïla Bekti, Géraldine Nakache qui sont nos invités, Patrick Timsit, Pascal Rabiot, les deux étant extrêmement bouleversants et le casting est un pur choix, en tout cas bien vu aussi de ce côté-là. Ça sort
demain.
Ça passe à une vitesse.
C'est incroyable.
Ça passe à une vitesse.
Alors très un dodo, c'est bon. Très sincèrement, quand j'ai vu le film au début, je dis waouh, il est daté parce que René est encore vivant.
Mais ouais. C'est vrai, c'était un film d'époque.
En costume. Et après, malheureusement, la réalité nous rattrape. On nous en reparlera dans quelques instants, mais d'abord, vous n'avez plus rien à faire. Détendez-vous, vous allez pouvoir vous ennuyer, Leïla et Géraldine, car il fait les questions et les réponses. C'est Tom Villa.
Géraldine Nakache, Leïla Bekti, merci de revenir à chaque fois dans notre émission.
Ça devient douloureux.
Douloureux, oui, je sais. Donc c'est un moment où je fais les questions et les réponses. Hein.
Fais attention à toi.
Oui, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, je suis un professionnel. Leïla, regardez-moi dans les yeux, tout va bien se passer.
Voilà. On n'a pas besoin de se regarder, pas besoin de se parler.
Ah, si on se parle pas, ça va être compliqué cette interview. Hein. Regardez, Leïla, je vous serre la main en guise de bonne foi.
Donc, gardez-moi pour gratter le cul.
Non, on va pas... S'il vous plaît, non, on va pas là-dedans, s'il vous plaît, ça va pas. Voilà.
Fais attention à toi.
Non mais Géraldine, j'ai rien fait. Leïla, pourquoi tant d'agressivité?
C'est du désir non assumé.
Ah d'accord.
Mais si c'est un plan drague.
J'ai 109 ans.
109 ans, putain, c'est hyper bien fait. Hein, Géraldine?
Une heure et demie de maquillage.
Et encore, une heure et demie pour un résultat comme ça, ils sont rapides. Hein.
Nous valons bien.
Oui, on avait compris, Leïla. Allez, on se reconcentre les filles, s'il vous plaît.
On sait pas où on habite là.
Je vous confirme.
En Bretagne?
Non.
C'est... À Tour-la-Fayette, sur les bateaux rouges.
Non, non plus, on a la maison là.
Toutes les bonnes burrata de Paris.
Oui, merci, Leïla. On avait. Ça va être compliqué là. Oui, j'avais un peu remarqué, Géraldine. Revenons à votre film. J'ai l'impression que limite des fois vous faites des films rien que pour vous retrouver toutes les deux. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Une théorie qui est absolument débile mentale à mon sens.
Bon, bah vous savez quoi, je vais m'arrêter là.
Hein. C'est comme le Titanic. À la fin, on sait que le bateau coule.
Oui, je le sens bien là, le bateau qui coule. Juste, Géraldine, vous pouvez pas balancer un petit dossier sur Leïla ?
Sur un plateau de cinéma, quand on tourne en extérieur, par exemple extérieur nuit, très froid, elle refuse de se réchauffer, d'utiliser une bouillotte.
Ah ouais ? Et pourquoi Leïla, vous prenez pas les bouillottes de Géraldine ?
Moi, tu mets de la drogue dans la bouillotte.
Ah bah oui, c'est normal. Allez, bonne émission.
Merci. La boule originale, sur France Inter.
C'est une mine.
J'adore.
C'est génial.
C'est bien fait surtout.
Ouais. C'est génial.
Ouais, ouais, c'est super.
Et du coup, faut saluer le travail de la personne.
Qui transpire.
Ouais, qui doit transpirer.
Les applaudir très fort.
Et des deux imitatrices, parce qu'il y a deux. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Il y a également dans la bande son de votre film J'irai où tu iras. En fait, vous avez envie de vous faire. Ouais, c'est une reprise. En plus, elle est allée chercher une chanson qui n'avait pas de succès.
Elle
est mise
en lumière.
Et elle
est mise
en lumière.
Ouais,
une chanson suédoise.
Je l'ai trouvée sublime cette
époque aussi. Ouais,
ah ouais.
Et donc, vous amusez en fait dans les films aussi à mettre votre BO, quoi.
Disques de votre MP3. En plus, ça m'arrange bien parce que du coup, j'ai la BO de mes personnages et la BO de la mienne, de metteur en scène. Donc, je peux faire un peu ce que je veux. Je vais chercher Camille pour composer le score du film.
Vachement bien aussi, Camille. Ce qui aide bien à pleurer aussi hein, sur la fin.
Ce qui aide bien, ouais. Seeds en plus, seeds. C'est pas sublime ça, la graine.
Vous traduisez toutes les chansons ?
J'adore.
Oh, Tord, vous avez pas dit déchirer. Hein. Je vous ai dit, ah ouais, Tord, j'adore. Seeds, la graine. Et puis il y a une chanson qui fait débat dans le film.
Je suis une fée, bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire.
Là, elle a encore l'accent québécois un tout petit peu.
Mais alors justement, vous savez pourquoi? Parce que donc cette chanson, l'original...
Attendez, c'était Céline qui chantait?
Ouais.
Bah ouais.
Bon, tu vois, c'est qui?
Bah alors écoute.
Je suis une fée.
Je suis une fée.
Bien ordinaire.
C'est la chanson de Charles Bois, d'accord, qui est quand même un hymne canadien. En fait, les Canadiens adorent cette chanson que lui chante. Elle est sublime l'original, que lui chante bien sûr avec tout son accent. Et en fait, elle l'a adaptée avec lui pour elle pour pouvoir la chanter sur scène. Et elle l'a chantée que sur scène.
D'accord.
Elle est dans le dernier album, mais c'est une captation, il me semble. Et du coup, elle est plus canadienne que jamais quand elle interprète.
C'est ça.
Ouais.
Alors qu'elle a pas du tout d'accent quand elle chante normalement, et là ça revient.
Ouais.
Et alors pourquoi avoir choisi cette chanson comme étant, on va pas révéler, on va en garder un tout petit peu pour ceux qui nombreux vont aller voir le film, mais comme étant un moment de tension en tout cas, où est-ce qu'elle signifie quelque chose
pour ce qu'elle dit aussi, ordinaire, parce que je suis une fille bien pour le propos bien sûr. Et puis parce que c'est une chanson de Charles Bois que j'adore et je trouvais ça important qu'elle soit là à ce moment-là comme ressort aussi scénaristique à ce moment-là du film.
La version originale de Charles Bois, la voici.
Vous voulez que je sois un dieu. Si vous saviez comme je me sens vieux. Je peux plus dormir, je suis trop nerveux.
Et je crois qu'il sera en... Je crois qu'il sera en concert au Grand Rex au mois de mars, Robert Charlebois, il paraît que ça va être fou.
Ouais. Ah ouais, faudra y aller.
Ça va,
parce
que j'ai eu la chance de le croiser ce week-end et
très bien,
trop gentil. Et voilà, donc,
il est adorable comme mec, ouais, absolument.
Et Céline aux vieilles charrues, quoi, c'est complètement dingue.
C'est dingue.
Vous avez tenu.
Surtout quand tu sais ce que veut dire vieille charrue en québécois.
Ça veut dire quoi vieille charrue?
Vieille charrue, c'est
une vieille voiture.
Céline.
Autre chose.
Charrue, c'est pas une voiture?
Une vieille charrue, c'est genre un tapin.
Ah bon?
Non.
Si, une vieille charrue.
C'est pas vrai.
Je te jure.
Si, c'est vrai.
Moi, je crois que sur ce dossier-là, je lui ferai confiance.
Non, c'était vrai.
Non, mais je viens par te croire. Vous avez tenu à chanter vous-même les chansons du film, comme ça avait été déjà le cas dans Tout ce qui brille, qui avait pratiquement relancé la chanson sur La drôle de vie. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que d'un coup, pour toute une génération, la chanson de Véronique Sanson est revenue d'actualité.
Corrigé, non ?
Et je peux vous garantir que dans Véronique Sanson a fait avec Vianney le duo sur cette chanson. Dans un taratata qui passera bientôt et ils ont mis le feu aux zéniths, quoi. C'est-à-dire que d'un coup tout le monde se mettait à chanter. C'est incroyable, vous vous rendez compte de ça?
Souvent on nous arrête dans la rue avec Layla et on nous dit on adore la chanson que vous avez écrite pour Tout ce qui brille. On dit mais non, on n'a rien écrit.
Moi je dis des fois que je l'ai écrite.
Pour rentrer gratos en boîte, c'est bien.
Oui, non, puis quand j'ai des coups de mou, manque de confiance en moi, je dis ah merci, c'est gentil, je l'ai écrite très vite.
Sur un coin de table.
Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi.
Allez, la musique, on en reparlera évidemment avec nos invités, Leïla Bekti et Géraldine Nakache. Ça sera la bande originale de leur vie, mais d'abord aussi Jérémy Crédville. Et Charlie.
Salut les amis, alors on en parle depuis jeudi, ça a occulté toutes les autres actus, mais c'est toujours important d'en parler, c'est même un devoir de mémoire. Oui, ce jeudi 26 septembre 2019, un nuage de fumée un peu toxique mais pas trop est passé dans les Hauts-de-France. Voilà, c'était le titre d'un article. Un nuage de fumée un peu toxique mais pas trop, et c'est pas Alexis Le Rossignol qui l'a écrit, c'est une petite anecdote. C'était dans le 20 minutes, et comme ça fait 20 minutes qu'on en a pas parlé, je vais aborder la mort de Jacques Chirac. Oui, parce que Jacques Chirac, plutôt que de se bouger pour son programme, il a bien bougé les nôtres. Et si vous le voulez bien, je vais le faire en rap. Pour toutes nos sœurs. Ou pour tous nos frères, pour ceux qui n'ont pas de sœurs. Ou pour personne, si vous êtes enfant unique. Rap Chirac. Jacques Chirac. On dit qu'il est parti trop tôt, notre tonton Jacques, sauf que son hommage était déjà prêt dans toutes les rédacs. C'était le roi du swag et du playback. Annonce des joueurs, tu connais pas, t'as la bouche ouverte dans le stade. Tes pantalons remontaient jusqu'à tes tétons. La boucle de ta ceinture pouvait te toucher le menton. Manger des pommes, toi t'aimes les pom-pom girl. Bernadette fait la gueule, t'en drague des tonnes. T'as niqué la mer avec tes essais nucléaires. Mais t'as dit fuck l'Irak, Jacques n'ira pas faire la guerre. Au salon de l'agriculture t'étais plus actif. Si c'était un salon de coiffure, tu l'aurais appelé emploi fictif. Tous les journaux ne font que vanter tes exploits de chef d'état, d'homme du peuple et de résistant. C'est quand même fou qu'un séducteur comme toi se fasse encore plus pompé mort que vivant. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Let's them go, let's them do. This is not a method, this is provocation. That is provocation.
Wow. Yeah.
Jacques Chirac, Jacques Chirac, Jacques Chirac, Jacques
Chirac, Jacques Chirac, Jacques
Chirac, Jacques Chirac, Jacques Chirac, Jacques Chirac, Jacques Chirac, il manquait des paroles. Jacques Chirac, Jacques Chirac, Jacques Chirac, RPR represent. RPR represent, ça fait RPR
represent.
RPR
represent.
Je te préviens, Aurel, ça va continuer ce couplet. Et gare à tes tympans parce que je lis, t'es même pas prêt. Cachez vos enfants si vous voulez pas les choquer. Cachez vos mamans parce que je vais les choper. T'as fait deux Mitterrand, un Mitterrand, un premier ministre sous Giscard, t'as pris en main ton destin. En 2006, tu crées le musée du Quai Branly. Et ben, une lettre près, c'était un truc sur Sifredi. T'avais les mains dans les poches et la clope au bec dans tes costumes. Quoi que tu fasses, on voyait toujours tes chaussettes. Hein. T'avais le regard des bovins que t'aimais si bien dans les débats. Tu clashais, tu couchais tout le monde comme des chiens. Pompidou, t'avais surnommé le bulldozer. Moi, j'aurais dit plutôt un fût puisque t'étais toujours plein de bière. T'adorais saluer les gens, t'avais la tchatcha du merde. Oh putain, t'as eu tout plus de doigts dans ta main qu'une actrice porno dans la chatte. Merde, quand t'étais maire de Paris, t'as lancé des motocrottes à l'Assemblée nationale, ils auraient pu ramasser tes potes. T'allais souvent au Japon voir des combats de sumo. Et comme t'aimais à le dire, ah c'est loin mais c'est beau. Ouais, c'est trop cool. Ouais, je te laisse avec 2-3 punchlines du corésien grugeur de métro. En guise d'hommage. Dommage. Dommage, enfin je vais pas toutes les faire. À toi Jacques.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. On rêve de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf les couilles, par manque de donneur. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier, il devient fou. Maman, c'est quoi toutes ces pièces jaunes dans la cave? Écoutez, mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Yeah!
Bravo!
La bande originale.
Génial!
C'est marrant, on l'envoie pile où t'as dérapé. Ouais.
T'adorais saluer les gens. T'avais la tchatche, t'as eu plus de doigts dans ta main qu'une actrice porno dans la fente.
Et voilà. Ouais, voilà. Et c'est là où tu dérapes. Ouais, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Jérémy Crédville. Non, vachement bien. Ouais. Et puis, la bande originale, donc, de nos invités. Géraldine Nakache et Leïla Bekti. On va partir dans les années 2006, pour être précis. Géraldine, vous écoutiez.
Cette chose-là. Mon premier c'est plaisir, mon deuxième du plaisir.
Véronique Jeannot,
Laurent Voulzy.
J'ai soufflé, ouh, 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 ils m'ont tout fait des souvenirs.
Qu'est-ce que cette chanson évoque pour vous en 2006?
Comme tu es belle, le film de Lisa Azuelos.
D'accord.
Une chanson que j'adore et qu'on chante pendant tout le tournage parce qu'on sait qu'elle va intégrer le film. Et voilà, Lisa Azuelos, Michel Larocque, Valérie Benguigui, Horatica. Ma première fois d'actrice.
C'est votre bande ou c'était une première fois?
C'est une première fois, donc vous imaginez, c'est vraiment devenu une bande, ouais. Et c'est, des grandes sœurs.
Et c'était pas votre frère, le premier qui vous a fait tourner?
Non, bah non, il savait pas. Enfin, personne savait, moi non plus en fait. Donc du coup, non. Bah oui, non, c'était... Je me suis rendue à un casting comme ça. En fait, on m'a appelée. Je travaillais pour la chaîne Comédie, mais on m'a appelée sur mon téléphone fixe de la chaîne Comédie. Où je faisais
ah oui,
aussi
c'est à l'époque où il y avait des téléphones fixes.
Ouais,
c'était dingue,
on m'a dit,
ça.
Vous pouvez venir pour un casting. Et j'ai dit, ah non, je suis en CDI à Comédie. Elle m'a dit, mais non, mais pas comme directrice de casting, pour passer le casting. Mm. J'ai dit, demain, entre midi et deux, c'est possible. Je suis allée.
Mais comment ça se fait qu'on vous appelle, déjà?
Parce qu'en fait, comme à Comédie, on avait très peu d'argent, je figurais dans les sketchs de Cadet Olivier. Et du coup, la directrice de casting m'avait vu au casting des sketchs, quoi.
Ouais.
Et du coup, je m'y suis rendue, c'était Valérie Benguigui qui donnait la réplique. Un mois et demi après, on était au Luxembourg, on tournait.
Et ça, vous l'avez dit tout de suite à la famille, à l'entourage ou pas?
J'ai un peu attendu que le film soit fini, c'était pendant les vacances, donc c'était parfait pour le travail, j'avais pas besoin de poser des jours.
Ouais.
Donc c'était transparent. C'était transparent. Après, il a fallu en parler, ouais.
Leïla Bekti, vous écoutiez à ce moment-là. Vous reconnaissez dans cette génération? Non, non.
Ah ouais, quand même, ouais. Mais je me reconnais beaucoup en dans ces chansons à Diams, ouais. J'adore, je trouve que c'est mais dans tout, hein, dans ces écrit des grandes chansons d'amour, des grandes chansons. J'adore ses textes, j'adore sa poésie. J'adore la variété française, moi. Là,
et vous comprenez qu'elle est lâcher le et la plume et le micro?
Ouais, je peux. C'est même pas. Je peux même pas ne pas le comprendre. Je sais qu'elle est heureuse, donc forcément, je suis.
Et elle a pas lâché la plume en plus.
Ouais, elle a pas lâché la plume. Elle écrit encore. Mais elle est hyper heureuse et je peux que.
Mais elle manque quand même. Elle manque quand même.
Ah, mais bien évidemment.
Moi, j'écoute à fond aussi Diams et je me dis, c'est dingue.
Mais moi, elle me. Ah, mais bien sûr, ah, ça oui. Puis quand j'entends ça.
Et ça vous transpose à quelle époque, si on parlait tout à l'heure du tournage de Comme tu es belle, vous Leïla, c'était chez Tan.
Ouais, chez Tan.
De Kim Chapiron.
Exactement, mon premier film, mon premier casting.
Ouais.
Et c'est marrant, on a commencé ensemble et un peu, pas de la même manière, mais en tout cas, c'était notre premier casting à toutes les deux. Et j'y allais vraiment Alors je le répète tout le temps, mais bon, c'est la vérité, j'y allais vraiment en me disant que j'allais pouvoir raconter à mes copines comment se passait un casting. Pour moi, tout le monde était en blanc, comme Eddie Barclay. Et vraiment, j'allais avoir plein de cadeaux, une voiture et tout. Et puis, je suis arrivée, il y avait une bouteille de cristalline et un verre en plastique. Ouais. On m'a demandé mon nom et mon prénom. Et on m'a dit improvise, quoi. Mais Chétane, c'est ma première histoire d'amour. J'oublierai jamais.
Et comme Géraldine, vous n'avez rien dit jusqu'au dernier moment.
Ah ouais, voilà, le dernier moment.
Ouais.
C'est ouais, j'ai.
Mais c'est quoi cette peur de dire je suis actrice?
Alors c'était pas une, moi c'était la peur qu'on me dise. Ah non, mais en fait c'était j'ai l'impression qu'il y avait Béliveau qui allait sortir de ma salle de bain.
Une caméra cachée.
Voilà, et que c'était une caméra cachée et que donc j'ai vraiment attendu qu'on vienne me chercher en bas de chez moi. Le premier jour de tournage, j'ai réveillé toute ma famille en disant je vais tourner un film avec Vincent Cassel. Ils avaient un peu la tête dans le donc ils m'ont dit
le coltard,
ah ouais.
Oui.
Ok, il était 6h du matin. Et le soir, je leur ai tout raconté. Et pour la petite anecdote, j'ai signé mon premier contrat d'actrice chez mes parents, avec mes frères et sœurs. On a compris deux clauses sur 147, évidemment. Et à mon frère, je me souviendrai toute ma vie, il m'a dit « c'est bon, tu peux signer ». Parce qu'il a comprené rien. Mais c'était beau de frère, commencer frère, avec eux, quoi. Non, ça a été mes agents, quoi.
Le frère protecteur, quoi.
Ouais. Même si con, il a rien compris.
Mais... parce que
il a vu signature en bas, il a dit tu peux signer.
Ouais, parce qu'ils étaient inquiets de entre guillemets d'un milieu qu'ils ne connaissent pas en disant aussi il faut protéger la.
Bizarrement
la fille.
Non, parce qu'au début quand je leur ai ramené le contrat, ils m'ont dit mais il y a pas d'agent, il y a pas de et j'étais j'étais très lucide. Je voulais absolument que ça se passe comme ça. Je lui ai dit écoute, si j'ai pas d'agent à ce moment-là, c'est un signe. J'ai besoin de commencer avec vous et le fait qu'on signe le contrat ensemble. C'était comme s'ils me disaient, évidemment, je pense que ce métier fait peur quand tu le connais pas, mais ils ont une telle confiance en moi qu'ils m'ont toujours, ils m'ont pas fait peur de leurs angoisses, en tout cas s'il
si y en avait.
Si
en avait. Ouais. Ouais. Cool. 2010, l'aventure de tout ce qui brille.
Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera.
Alors oui, on sait que cette chanson maintenant est collée à ce film, Géraldine, mais comment la chanson débarque dans la bande originale?
Parce qu'elle est elle est à l'existence de, des premières versions du scénario Tout ce qui brille. On a mis du temps avec Hervé à
l'écrire.
Ouais, 4 ans. Elle est là depuis le début parce que j'avais envie d'une, d'une chanson qui lie ces deux jeunes filles et qui soit pas une chanson de leur époque. Quelque chose qui ait traversé les époques qu'elles aient peut-être entendues respectivement chez leurs parents. Et du coup, moi, j'adorais cette chanson. Donc, elle était dans les premières versions de scénario. On devait utiliser cette version-là, sauf qu'un mois avant le tournage, on nous dit, les musiciens n'ont pas signé les feuilles de droit. On ne peut pas utiliser la version de Véronique Sanson. Faut filer en studio.
Au début, on se dit, tout refaire à zéro.
Ouais, ouais. Au début, on se dit, on va prendre des chanteuses. Et après, on en parle avec le producteur qui dit, mais chantez-le vous. Mais non, on n'est pas chanteuse. On sait, pas grave, il y a des machines, on va vous aider. On enregistre la...
Autotune!
Autotune, exactement. Auto-tune. On enregistre la version qui nous sert au tournage puisqu'on a une séquence à l'intérieur du film où on doit chanter la chanson. On projette le film à nos producteurs, aux financiers qui nous disent, est-ce qu'on peut la sortir? Ça va aller sur les ondes, ce truc-là. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte?
Ouais.
Et c'est parti.
Vous avez jamais, puisque moi j'ai insisté, vous avez jamais voulu la chanter cette chanson.
Ouais, parce qu'en fait, c'était un.
On a vraiment les voix de nos tontons.
C'était dur. Non mais Nagui, vraiment,
moi j'adorais. Moi j'adorais être chanteuse.
Mais
c'est
viens.
Génial.
Mais pourquoi vous venez pas chanter ça?
Mais Nagui, non mais viens, un jour on fait des répètes. On se tutoie, c'est pas grave.
Il n'y a aucun problème.
Oui. Non, mais oui, mais parce que.
Non, mais moi, je rêvais de vous réunir, ne serait-ce qu'avec Véronique Sanson, de faire un truc tous les trois avec ça.
On l'a fait une fois avec elle.
Moi, j'aimerais bien faire des répètes.
Avec Céline Dion aussi.
Et puis c'est bien.
Si vous venez, vous avez un rencard avec Céline Dion.
Film de la bête.
Si vous passez votre permis, on échange.
Non, il n'y a pas de film.
Non, mais depuis J'irai où tu iras, où donc j'ai pris 6 mois de cours avec un prof de chant, parce que je tenais à chanter moi les deux chansons, puisque je suis chanteuse de prestations privées.
C'est pépé.
Non, mais si. C'est pire aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas. Non, mais je vous jure que c'est vrai, j'ai pas attendu ce film pour avoir un respect infini pour des artistes interprètes. Mais depuis que j'ai eu à le faire, et pourtant c'était devant mon équipe, vous savez pas le trauma que c'est. J'ai trouvé
c'est
ça d'une.
C'est un permis de conduire qui revient.
Mais c'est un peu ça. C'est un peu... Non, mais parce que t'es toute nue quand tu chantes, en fait. Et c'est très très dur de. C'est pas tant parvenir à la note ou la passer, la note. C'est donner quelque chose qui est à part.
On peut pas tricher. Non,
alors,
c'est
on peut pas tricher.
Mais c'est ce qui fait que quand certaines personnes chantent ou des instruments même jouent, ça procure une émotion.
Bien sûr.
Qui amène
bien sûr, sauf que moi, elle me tétanise cette émotion. Elle me tétanise.
Leïla Bekti, vous, dans cette période Tout ce qui brille, vous écoutiez. Déjà
ah, c'est
Tout ce qui brille aussi. Et je me demandais, dans ce film, forcément, on s'interroge sur ce qu'il y a de vous, chacune. Dans vos films, moi, Géraldine, ce qui me touche, c'est la figure paternelle. À chaque fois, à chaque fois. Tout ce qui brille, le père chauffeur de taxi qui vous fait danser sur ses pieds. Moi, ça peut me faire chialer, mais pendant plusieurs semaines. Dans ce film avec Patrick Timsit aussi.
Bouleversant.
Ouais.
Il est sublime, Patrick.
Qu'est-ce qu'on peut dire du père sans que je vous fasse pleurer?
Voilà. qu'est-ce qu'on peut dire du père? Il est le pilier, le patriarche. Il est celui sur lequel on peut s'appuyer et il est celui qui se trompe. Beaucoup. Mais avec de l'amour. Donc il y a beaucoup à dire. Et dans celui-ci, il y a aussi une figure de la mère, le rôle de Pascal Arbillot. Ouais. Qui est aussi celle qui remplit l'espace en parlant beaucoup, mais qui sait tout. Oui, les parents, c'est un sujet abyssal et vertigineux, et c'est vrai qu'il commence à y avoir une typologie de papa là dans mes trois films. Ça me permet de moins payer des psychanalystes, aussi, finalement.
Et lui, il en dit quoi?
Il est très ému.
Il se reconnaît?
Il appelle Leïla.
Ah, il est hyper ému, il est hyper. Il nous a fait plein de surprises pendant la. On a sillonné la France là pendant un mois et on a fait aussi des avant-premières en région parisienne. Et comme dans le film, il appelle Géraldine avec un sifflement. Et donc on entendait le sifflement, on disait ah surprise, il y a ton père.
Oui, il y a des codes. Il y a des codes. Ouais. Soit, alors je sais pas si c'est exactement les mêmes notes. C'est vraiment
Patrick Timsit dans le film m'a avoué en lecture du film que son père aussi le sifflait. Ils avaient un sifflet de familial.
Mais
donc
ouais.
Il m'a dit est-ce que je peux faire le sifflet de mon papa.
C'est trop
mignon.
Donc
il a fait celui de son papa.
D'accord. Ouais. Et les brocolis en emoji.
Ça c'est mes parents, père et mère. C'est-à-dire que mes parents quand ils ont vu arriver les emojis sur leur téléphone, à chaque texto de t'es bien arrivé, il y avait tous les emojis du téléphone. Ski, jongleur, choucroute, tout ce qui était possible. Et ça finissait, on sait pas pourquoi, par des fruits et légumes. Du coup, j'ai condensé, j'ai gardé que les brocolis. Et c'est vrai que je me suis surtout aperçue que quand mes parents m'envoyaient un texto sans emoji, il y avait une angoisse qui naissait chez moi. Il y a forcément un problème, quoi. Ils n'ont pas pris le temps de mettre.
Pourquoi t'as pas mis les brocolis? Il y a un truc qui va pas.
Voilà, il y a un truc qui va pas. Ça, c'est un truc de code aussi, parce que ça n'a pas de sens. C'est des choses qu'on se dit jamais en famille, mais on le ressent très fort. C'est très bizarre.
On va continuer de parler évidemment de votre film J'irai où tu iras, qui sort demain au cinéma. Leïla Bekti et Géraldine Nakache sont deux sœurs dans ce film. Dana Castro, bonjour. Merci de venir à ce micro. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, je vais y arriver, psychothérapeute, directrice de l'école des psychologues praticiens.
C'est fini. Non, faut respecter la réalité.
D'accord. Vous avez publié Frères et sœurs, les aider à s'épanouir chez Albin Michel en 2017. Comment définir le rapport qu'il peut y avoir entre deux sœurs? Déjà, est-ce que le rapport entre deux sœurs est le même qu'entre deux frères?
Ça peut, mais en tout cas, c'est un rapport extrêmement complexe, émotionnel, tumultueux, fluctuant, qui peut changer d'une seconde à l'autre, comme on l'a bien vu dans le film. Donc, c'est un rapport qui n'ennuie peut-être jamais, en vrai.
Mais est-ce que deux sœurs peuvent en arriver au point où démarre le film, c'est-à-dire à s'étouffer l'une l'autre ou à s'ignorer et à créer comme ça des murs invisibles?
Oui, tout à fait, elles peuvent le faire, ça peut se faire...
Sans aucune raison particulière, sans qu'il y ait une fâcherie particulière, juste tu m'énerves.
Ouais, ça peut se faire pour plein de raisons. Ça peut se faire parce que peut-être qu'au début, l'alchimie qui fait que les frères et sœurs deviennent amis ne se fait pas. Ça peut se faire, comme on le voit dans le film, pour toutes sortes de malentendus, c'est-à-dire que chacun veut protéger l'autre, et d'ailleurs tout le monde protège tout le monde, et en fait personne n'est heureux dans cette famille. Ça peut se faire parce que les êtres humains ont une caméra dans la tête et ils projettent sur l'autre plein d'histoires qu'ils s'imaginent, je ne sais pas comment. C'est comme ça, des scénarios qu'ils font dans la tête et qu'ils projettent sur les autres.
Et ça veut dire quoi, pardon? Qu'on idéalise sa sœur et finalement on est déçu parce qu'on aimerait que sa sœur soit plus ceci, plus cela.
Non, je pense que l'idéalisation, ça va avec l'ambivalence. Alors l'ambivalence, c'est un sentiment très complexe qui fait qu'on ressent deux émotions contraires pour la même personne en même temps. Par exemple, elles peuvent pas se supporter dans le film, mais en même temps, elles s'aiment. Mila, quand elle entend chanter sa sœur, a les larmes aux yeux, et puis elle aide à se présenter au mariage.
Oui, mais elle lui avoue pas. C'est-à-dire elle entend chanter, elle est émue par la voix de sa propre sœur, et plutôt que de lui faire un compliment, elle va mentir en disant « Ouais, non, je suis passée par là, ouais, j'ai entendu, mais que la fin. » Pourquoi ne pas avouer? Pourquoi avoir cette pudeur de ne pas se dire « Je t'aime »
Parce que c'est difficile, enfin je pense, que c'est difficile, et on ne sait pas ce qui nous attend après. Vous savez, on se dit toujours dans la tête, on connaît la première ligne du scénario. Je vais lui dire que ça va bien, et après on ne sait plus ce qui va se passer. Donc c'est là où le scénario peut intervenir. Elle va me rembarrer, elle va me dire c'est nul.
Anticiper ce qui va sûrement pas arriver.
De négatif.
En plus.
Oui, négatif. On anticipe quelque chose de négatif, et ça tout de suite, ça peut nous bloquer.
Et pardon, ça marche aussi bien entre frères entre deux frères, entre deux sœurs et entre frères et sœurs.
Absolument.
Tout ça.
Absolument.
Et les liens sont exactement identiques?
Je dirais que les préoccupations peuvent ne pas être identiques, mais les liens sont identiques parce que ce sont des liens émotionnels. Ce sont des liens émotionnels qui ne se créent pas de rien. Ils se créent dans le contexte, ils se créent dans le système familial, qui est vraiment comme une horlogerie, c'est-à-dire qu'il y a plein de pièces qui s'emboîtent.
Comme quoi? Comme la jalousie?
La
compétition?
La compétition qui peut être très forte, qui peut être induite aussi par l'entourage. Pourquoi t'es pas comme ta sœur? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir... Prends exemple sur ton frère. Ouais. Et là, c'est sûr que c'est mort parce que l'exemple, c'est pas le bon.
Ça, il faut jamais dire ça. Il faut dire aux parents...
Comparer, quoi.
La comparaison... Déjà, on peut se comparer tout seul sans problème. Ouais. Sans avoir besoin de quelqu'un de l'extérieur qui nous compare. Je suis nulle, c'était super. Enfin, ça, on sait le faire tout seul. Mais en plus, quand ça va de l'extérieur et que c'est quelqu'un d'important... pour un enfant. Qui de plus important quand l'enfant est petit que les parents? Et qu'ils se ramènent et qu'ils disent « Ah, mais pourquoi j'ai une fille comme toi? Regarde ta sœur, comme elle se dépêche et comme elle est rapide. Quoi? Tu lis des bouquins au lieu d'aller jouer au baseball comme ton frère? Mais pourquoi tu es sortie comme ça ?» Eh ben, ça n'incite pas ni à parler, ni à se montrer, ni
et
à...
Et tout se joue, apparemment dans ce que vous racontez, tout se joue dès le premier âge. C'est-à-dire que dès 4, 5, 6 ans, on peut influencer les rapports qu'auront deux frères ou deux sœurs à l'adolescence ou plus grand?
Je ne veux pas être catégorique. On va dire que je suis catégorique, mais c'est, foutu, c'est logique. Non, c'est pas foutu. J'ai pas dit que c'est foutu. Ça laisse une empreinte. Parce que, je vous ai dit, c'est un système, et puis chacun a son caractère. Et c'est extraordinaire de voir comment un bébé a 3 jours de vie. Enfin, si vous me dites que je dois être catégorique, je vais l'être.
Je vous demande de
l'être. On peut prévoir. Presque comment il sera à 5 ans, etc.
Ah, oui. 3 jours.
Attendez, comment
c'est
ça
pas un peu catégorique, non, ça. Non.
Bah, il m'a dit que je dois être catégorique, alors
j'essaie. Je n'importe quoi non plus.
Non, ça m'intéresse, ouais. Ça veut dire
en
quoi,
fait,
Dana
3 jours. Non.
Après
ce que je veux dire.
Tu peux le savoir aussi.
Non. Oui, d'accord, catégorique, mais surtout pour illustrer un propos.
Alors, expliquez.
C'est-à-dire que vous avez des bébés qui pleurent tout le temps, qui s'agitent, vous avez des bébés qui se couchent, mangent, dorment et aiment leurs parents, bien entendu. Donc, on le voit très vite. Et quand on a l'habitude un peu de voir comment se développe l'enfant, on peut se dire, enfin, on peut faire des prédictions, enfin, ou des anticipations sur, ah ben, celui-là, ça va être un enfant calme, ou ça va être un enfant facile.
Oui, mais ça, c'est son caractère, lui, personnel.
Mais c'est ce que je vous dis.
Ça ne préjuge pas du rapport avec la fratrie.
Eh ben, j'arrive.
Allez-y, continuez.
Ben, je continue.
Merci, Dana.
Donc, ce caractère va.
C'est pas grave. Continue, Dana. Non,
je continue.
Bien sûr, continue. Ce caractère.
Non, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que l'enfant. Enfin, nous rentrons tous en interaction avec un environnement. Mm-hmm. Et la façon dont je me conduis avec vous va induire la façon dont vous allez vous conduire avec moi. Donc, un bébé qui est sage, mignon et tout, forcément, ça va induire chez les parents quelque chose de super. Bon, un qui n'est pas sage aussi. Mais on va dire que c'est un peu avec plus de turbulence. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une interaction entre tous ces protagonistes du grand film de la vie, si je dois faire des métaphores, qui font que très vite, finalement, on catégorise les gens, on les met dans des rôles. Celui-là, c'est le clown. Celui-là, c'est l'intello. Celui-là, c'est
le susceptible.
La fragile. Exactement, la fragile, la forte. Et pour un enfant, après, c'est très difficile de sortir du rôle. Et d'ailleurs, il faut beaucoup de courage et peut-être cette transformation intérieure que de dire, c'est pas ça que je veux faire. Oui. Donc, je veux faire ce que je veux.
D'ailleurs, on a la sensation que même dans le film, les métiers que les filles exercent, je dis pas que c'est pas par passion, mais finalement, le métier de Leïla Bekti, d'être sur de l'art-thérapie et d'être quelqu'un d'un peu stable, solide, ça peut presque même venir du fait qu'enfant, on l'identifiait comme celle qui était forte,
fertile,
alors que l'artiste, la sensible,
c'est vrai.
Celle qui peut...
En tout cas,
est-ce qu'il y a une forme de déterminisme sur le chemin qu'on choisit?
Pas de déterminisme,
on va
dire.
Questions, hein.
vous avez raté un débat très intéressant.
J'écouterai.
Pas un déterminisme, une orientation. Oui. Parce que dans le film, tout le monde veut protéger. Vali veut faire plaisir à son père avec René, Céline et tout. Mila veut faire plaisir à son père en étant la forte. Et puis d'ailleurs, la dernière scène est vraiment très émouvante parce que c'est le père qui vous donne la main et qui vous dit restez ensemble.
Alors justement, je voulais savoir si un drame dans une famille, puisque c'est aussi la toile de fond, peut changer les rapports entre frères et sœurs.
Et je suis catégorique. La réponse est oui.
C'est-à-dire que malheureusement, il faut qu'il y ait soit un décès, soit une maladie grave pour que d'un coup, les liens se resserrent et qu'on se dise finalement, on est du même sang, on est de la même famille et on s'aime parce qu'on se retrouve à qui à un enterrement ou qui autour d'un lit d'hôpital.
Mais je reprendrai une réplique du film qui dit ça existe. Effectivement, un événement grave, un traumatisme qui va dans une famille, ça existe. C'est réel. Donc, quand c'est réel, tous les projections des films qu'on se fait dans la tête disparaissent. Et à ce moment-là, la solidarité, l'amour, les liens. Bon, on peut se disputer après. Mais dans un premier temps, c'est vraiment l'idée que ça existe et que face à l'adversité,
Je vais vous surprendre, Dana Castro. Je vous remercie d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.
Vous publiez, je rappelle, Frères et Sœurs, les aider à s'épanouir. C'est chez Albin Michel.
Vous arrivez à faire fuir Nagui, c'est un grand pouvoir.
Je ne vais pas interpréter.
Ils vont vous demander de revenir. Tanguy, Fassureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
La France, hier, a dit adieu au président Jacques Chirac.
Oui, et ce faisant, elle a dit adieu à la France d'avance, celle de la tête de veau et de la binouse, de la clope sans filtre et de la graisse à traire sur la peau l'été afin de se taper les UVA, les UVB, mais aussi les C qui n'existent même pas. On roulait sans ceinture, on couchait et un jour sur deux, les pompiers devaient récupérer la déesse de François Sagan dans le fossé. C'était la génération Chirac.
On en parle après les infos de midi. Daniel Morin, Tom Villa, Tanguy Pastureau, Jérémy Crépin,
bonjour,
et nos invités Leïla Bekti et Géraldine Nakache.
Bonjour.
J'irai où tu iras sort demain au cinéma.
Mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit.
Et puis alors, en termes de bande originale, il y a la zik. Hein. Il y a France Gall aussi.
Bah oui.
Bah évidemment.
Évidemment.
C'est les où es-tu sont tellement importants.
Ouais. Sans ça, il n'y a pas de.
Mais non, il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas de chanson. Il y a de l'ambiance aussi. Et puis il y a Camille. Comment s'est passée la rencontre avec Camille ? C'est en écoutant Seeds que vous avez eu envie de...
J'avais écrit Seeds au scénario, puis c'est mon superviseur musical Raphaël Amburger qui me dit « Mais si pour toi Seeds c'est la couleur du
Raphaël
film... »
Raphaël étant le fils de France Gall,
il faut quand même préciser. C'est vrai. Il me dit si Seeds tu estimes que c'est la couleur du film, allons la voir pour composer la musique originale du film. Et je lui dis mais jamais, comment, quoi, pourquoi, elle va dire quoi. Il m'a dit bah tu lui envoies le scénario.
Mais pourquoi avoir peur de demander?
J'avais peur de demander parce qu'elle en avait pas fait beaucoup. Et puis le seul qu'elle avait fait c'était pour Ratatouille avec Hans Zimmer. Et je me suis dit mais elle va juste me rire au nez quoi. Et elle a lu et elle m'a dit elle a lu, elle a aimé. Et du coup elle m'a dit on y va, j'ai envie de raconter cette famille avec toi.
Elle a dit quoi?
Putain, elle a un rapport avec sa sœur qui est...
Mmh. Ouais, et avec son papa aussi.
Ouais. Mmh.
Donc toute l'histoire a trouvé écho. Je pense que l'histoire va faire vibrer toute personne par rapport à ses parents, par rapport à ses frères et sœurs.
Là, on est parti pendant un mois avec le film en France pour le montrer en avant-première.
Vous avez eu ce genre de retour?
En fait, on a été surprises, Leïla et moi, parce que les gens ont pris la parole pour raconter, pour témoigner de leurs histoires personnelles. Des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, qui, vous pouvez l'imaginer, ne nous a pas du tout fait pleurer pendant un mois.
On va pleurer de rire maintenant avec Tanguy Pastureau. Tanguy, vous allez vous aussi nous parler de Jacques Chirac.
Oui, Nagui, écoutez.
Non.
Non, mais si j'étais imitateur, ça suffirait. Hein. Vous me diriez merci, Tanguy.
Il manquait un crac.
Puis j'encaisserai mon chèque et je rentrerai chez moi. Mais je n'ai aucun don. Bon, si on creuse un peu, je fais bien les frites. Et donc, je suis obligé de gratter, de travailler à l'ancienne, avant le vent des start-up, avant nos existences virtuelles, avant le post-humain, ce qui ne désigne pas un type qui distribue le courrier. Il n'y a plus de courrier. Mais nous, spectres illusoires qui derrière ne laisseront rien. Alors que du temps de Chirac, bah tout était palpable. Il y avait de la sueur, des gens avec des mains calleuses. Une masseuse à l'époque, elle vous réduisait la fesse droite de Bruel en poutre juste en la serrant un peu. Ça sentait la bière tiède et les sécrétions. Le ministre du Travail apparaissait à la sortie de son ministère fourbu, avec sous le bras 40 kilos de dossiers. Les gonzes avaient les mêmes vies que les lamas au Pérou. Aujourd'hui, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, une petite date qui ressemble à Pierre Richard en moins frais, arrive au point presse, les mains dans les poches, dit bonjour, il n'y a pas de travail, au revoir, et s'est plié. Les Français ont pleuré Chirac, mais en faisant ça, ils se sont pleurés eux-mêmes. C'est notre folie qu'on a enterrée. Parce que Chirac, c'était un punk à faire passer les Sex Pistols pour les petits chanteurs à la Croix de Bois en pleine extase mystique. On dit qu'il était écolo, tu parles. En 5 jours, il dépotait le même bilan carbone qu'une tournée mondiale d'Ed Sheeran. Déjà, il mangeait, mais comme un fou. Depardieu à côté, c'est Lily Rose Depp. Au salon des vaches, vous lui tendiez un saucisson, il le bouffait. Un pâté, il le bouffait. Une courge, il l'a bouffé. Un jour, une dame lui a tendu son bébé, il l'a bouffé. Non mais avec lui, il y avait avait pas de gâchis. Sur un bestiau, il mangeait tout. La tête, le flanc, les pattes. S'il restait les cils d'un porc, il les faisait en sauce. En plus, Chirac buvait pour faire passer la viande. 20 litres de bière, il tenait debout. Aujourd'hui, si Gérald Darmanin boit une tourtelle, il voit des formes. On est obligé de lui enfoncer une paille dans le bec et d'aspirer pour lui vider l'estomac. La moitié de leur carrière politique, les mecs étaient déchirés. Quand tu tournes au Fanta, tu dissous pas l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il dissout l'Assemblée nationale, Macron? Non, parce qu'il a juste droit à un candy up à la fraise le matin que Brigitte lui prépare. Mais c'était ça la France, des gens qui mangent et qui boivent, qui ronflent et qui rotent. Et puis totalement non-genrés, parce qu'avec l'alcool, les hommes et les femmes finissent par avoir la même tête. Hein. Les temps ont changé. Regardez les photos prises à Inter en 72. On y voit Daniel Morin alors qu'il effectuait son stage de 3e, entouré de journalistes en train de jeter leur mégot de clope dans le fond de la bouteille de Valstar de Laure Adler. En 2019, on est là tout sage, tout lisse. Le truc le plus rock'n'roll en studio, ce sont les cheveux de Jérémy Crédville. Et encore, je suis sûr qu'il les lave. Mais Chirac, ça a été une vie d'excès. L'alcool, la tête de veau, le brosouf et les femmes. La blénorragie, il est passé à travers, on sait pas comment.
Donc selon vous, c'est donc une idée de la France qui s'en va.
Mais oui, Nagui, Patrick Sébastien l'a dit dès jeudi soir. Il a déclaré, c'est une certaine France qui est morte avec lui. Et on peut lui faire confiance à Patrick Sébastien. La France, il la connaît. Il a fait l'hélicoptère avec son sexe dans 80% des salles des fêtes du pays. Mais c'est le seul type qui, au congrès des maires, peut débarquer et crier, allez les gars, on fait un pouet-pouet camion géant. Hein, Sébastien viré de la télé, Chirac qui meurt, mais c'est la France Justin Bridoux, Picon, qui clams. Le groupe Licence 4 vient boire un petit coup à la maison. Ils étaient trois, déjà deux sont morts. Il en reste moins que de Beatles. Or, tenez, tiens, regardez Chaka Ponk, qu'on nous présente comme des rockers. Ils sont véganes et tournent à la camomille. Ils vont vivre jusqu'à 110 ans. À eux, la tournée des EHPAD. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la vie qu'a menée Jacques Chirac, c'était la norme. Moi, enfant, dans les années 70, à 2 ans et demi, j'allais à l'école tout seul. Les pédophiles n'osaient pas nous approcher. À 3 mois, on avait du pinard dans le biberon et on grandissait dans la fumée de clope. Donc on était des déchets, plus nocifs pour la santé des gens qu'une usine Céveso dans la banlieue de Rouen. Une fois gamin, je me souviens, j'ai soufflé au visage d'un chat, il est mort. Alors, Chirac, enfin, c'était quelqu'un qui était à l'écoute, hein, parce que bah, vous parliez aux gens, ils étaient dispo à l'époque. Hein. Il n'y avait ni texto, ni Twitter, il y avait de l'intérêt pour l'humain. Aujourd'hui, un président, c'est un monsieur qui se méfie de son peuple. Les pauvres cons de Sarkozy, les cendants de Hollande, les ceux qui ne sont rien de Macron. Elle revient quand, l'empathie? On peut se moquer de celui qui caresse la croupe des vaches, d'autant plus qu'ensuite ils mangent la tête de leur fils. Hein. Mais c'était fait avec naturel. Lâchez Benjamin Griveaux, Marion Maréchal, Adrien Quatennens, toutes vos idoles là. Face à des paysans dans la détresse, ils vont se planquer dans un tas de foin en attendant que le service de sécurité fasse son job. Bah Chirac, il allait au contact. Histoire de génération. Les types faisaient les marchés et ils les faisaient par plaisir. Juste parce que sur les marchés, il y a des gens et du fromage qui souvent dégagent la même odeur. Un Chirac qui resquillait le métro, roulait à fond, fumait comme un malade. À Brégançon, il s'était fait shooter à Walpé sur le balcon. Macron à côté, c'est un scout encore puceau qui, pour se déniaiser, s'accouple avec une souche de chêne au fond des bois. On a l'impression que c'était un punk, en fait, c'était juste un homme en vie dans une France plus cool, plus dangereuse aussi. Hein. Attention, on pouvait mourir jeune si jamais on faisait la même chose et qu'on n'était pas Jacques Chirac.
Merci.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Et on retrouve Tanguy à Mugron, c'est dans les Landes, c'est le 12 octobre, oui, bon. Au contact. Des Français.
Leïla Mekhi, Géraldine Naka. Géraldine, vous avez donc écrit le scénario, vous l'avez réalisé, vous avez demandé à Rebecca Zotowski, que nous avons reçue la semaine dernière, oui, qui était venue présenter la série des Sauvages, ouais, et à Johan Grond de vous aider. En quoi vous aide d'autres mains à l'écriture d'un scénario?
Là, en l'occurrence, comme c'était le premier toute seule, c'est vrai que j'ai souvent entendu mon écho résonner dans le bureau. Et que parfois, à des moments stratégiques, et ça c'est mon producteur Pierre Guyard qui a été très malin là-dessus, il m'a dit, il va falloir que tu reçoives, que tu ping-ponges. Mmh. Et du coup, j'ai fait appel à Johan Grombe et à Rebecca Zotowski à des moments très différents.
Pourquoi eux?
Pour confronter, pour savoir si quand j'explique ce que je veux raconter, si je justifie très fort une séquence, c'est que, et que j'en ai une justification judicieuse a priori, et qu'ils la reçoivent, ça veut dire que j'ai raison de la faire exister dans le scénario. Et quand tout d'un coup tout se démonte, et ça ne peut exister que dans un échange, avec des gens qui savent aussi ce que c'est que la structure d'un scénario classique, ben ça n'a pas trop de valeur. Et dès que j'avais pas d'argument, allez next. Il ne s'agit pas finalement d'écrire une ligne de dialogue, il s'agit d'échanger sur le sujet. En fait.
Et alors justement, Leïla Mekhi, qu'est-ce que vous avez voulu apporter à votre personnage? Est-ce que vous avez joué l'actrice au service de la réalisatrice, mmh, ou vous avez proposé des choses particulières?
J'ai proposé des choses, mais pas forcément sur mon personnage. Parce que bizarrement non, c'est quand Géraldine me faisait lire les différentes versions, je trouvais que le personnage de Mina était beaucoup plus abouti que celui de Vali. Donc en fait,
C'est vraiment déjà à la base pour moi je travaille sur une histoire et j'ai vraiment besoin
il et pas que sur
de
votre
parler.
Rôle
ouais. Ouais ouais je trouve ça c'est même pas un truc généreux de ma part c'est juste qu'on est en, enfin c'est plus une marque d'investissement et de au contraire
et d'intérêt
ouais et d'intérêt ouais. Mais,
ouais je vous rappelle le film sort demain au cinéma et ça s'appelle J'irai où tu iras ouais. Voici encore des questions concernant oui la culture et concernant Céline Dion. On a dit que le 16 juillet prochain donc elle sera tête d'affiche des Vieilles Charrues. Maintenant on sait ce que ça veut dire. Joli coup donc pour ce festival breton, mais aussi c'est une première.
Plus gros cachet.
Exactement.
Ah bon
forcément.
Ah bien pas pour.
Ils ont pas communiqué.
Pour de bien. Ah
c'est vrai. Mais ça on le sait officiellement que c'est.
Ouais. On sait officiellement. Avant c'était Bruce Springsteen. C'était Bruce Springsteen qui avait le plus gros cachet. Il avait été ensuite dépassé par Depeche Mode. Et maintenant Céline Dion vient encore.
Quel cachet des deux faire. Deux festivals d'avant.
De dépasser ça. Est-ce que vous y retournerez au concert de Céline Dion, quoi qu'il arrive ?
Évidemment.
Ça, c'est Pascal. Quel est le point commun entre Bernard Lecoq, Arnaud Ducré et Samuel Labarthe ?
Ils ont tous joué Chirac.
Exactement. Ils ont tous incarné.
Samuel Labarthe, ok. T'as dit
Mort d'un président pour Samuel Labarthe. Ouais. Arnaud Ducré, c'était dans Adieu de Gaulle, Adieu. Ouais. Et Bernard Lecoq, c'était dans La Conquête et dans La Dernière Campagne. L'Islande vient d'être condamnée à une amende pour quelle raison ?
C'est
culturel.
Ils l'ont laissé rechanter.
Ouais,
quoi?
Non, j'ai dit à cause de Björk.
Non.
Et il a ajouté, ils l'ont laissé rechanter. Moi, j'ai pas dit ça. Ouais,
c'est
l'adore.
Bien, Björk.
Ah, ouais, c'est formidable.
C'est en lien avec quoi?
C'est culturel.
Culturel.
Enfin, culturel au sens large, très large.
C'est lié à Internet.
Le foot?
Non.
Les volcans,
les dieux? Culturel.
C'est dans la musique?
C'est lié à la chanson, oui.
À la chanson.
Ils ont pris une chanson à l'Eurovision, ouais.
Alors, infraction au règlement de l'Eurovision, exactement. Les organisateurs du concours d'Eurovision ont infligé une amende à l'Islande pour sanctionner le déploiement de groupes par le groupe islandais Atari de banderoles aux couleurs palestiniennes au cours de la première édition de la compétition musicale organisée en Israël. Que vient d'annoncer le chanteur Sam Smith sur les réseaux sociaux ?
Qu'il arrêtait ?
Qui continuait ?
Non.
Qui reprenait ?
Qui avait une rage de dents ? Une histoire de genre, non ?
Oui.
À Paris. Ouais.
Change de sexe ?
Non genré ou qui ?
Non binaire.
Non binaire. Non binaire.
Non binaire. Ni homme ni femme.
Ouais. C'est un oiseau.
C'est l'interprète de Stay With Me. Alors les réseaux. Non, il a annoncé ça sur les réseaux sociaux. À quel point vous vous servez d'ailleurs des réseaux sociaux ? Vous êtes très présente ?
Ouais, on l'est. En tout cas, on les gère nous-mêmes. C'est vrai.
Ça, on les gère nous-mêmes, ouais. On n'a pas de community
donc
manager.
Webmaster,
ou quoi.
C'est
non,
ça.
Ouais, ça, j'ai pas voulu. Et, mais surtout, je trouve ça fabuleux.
quoi donc?
De pouvoir échanger directement avec les gens. Après, l'idée de montrer ce que je mange et avec qui je suis et de montrer, mon fils, par exemple, c'est
la frontière, c'est la vie privée, c'est-à-dire que tout ce qui est professionnel, vous le mettez sur votre Insta ou sur.
Et puis ça m'empêche pas de déconner, mais c'est vrai que
famille, enfants.
Ouais, parce que ils ont pas choisi de faire un métier d'image, donc
pourquoi les exposer ouais.
Exactement.
Ouais.
Et est-ce que vous suivez tout ce que l'on dit sur vous
Moi, avant, oui, et c'est marrant parce que ça pouvait me faire hyper mal en fait de me dire. Les gens ont une idée ou ont une image. Et puis là, aujourd'hui, non, parce que il faut que ce soit dans les deux côtés. Si on commence à lire tout, ça veut dire que les compliments... Et ça peut commencer à nous faire tourner la tête et se dire, attends, mais je suis la meilleure, et je suis géniale, et je suis ici. Donc il faut...
Au-delà des réseaux sociaux, pardon Jérémy.
Non, j'allais dire, au milieu de 100 compliments, on va remarquer le seul truc négatif. Quoi,
évidemment. Et au milieu justement, en sortant des réseaux sociaux, des critiques, des interviews que vous avez pu faire pour la présentation d'un film, est-ce que vous êtes sensible ou hermétique à la critique en vous disant finalement c'est le public qui jugera, c'est pas forcément des gens qui écrivent dans des papiers.
Non, si, ça me touche de lire certaines critiques, ouais, ça me touche. Là, le film sort demain et oui, évidemment.
Vous les appelez quand il y a quelque chose qui ne va pas en disant pourquoi vous avez dit ça,
vous les
menacez. Non, parce que c'est le job, c'est le travail, c'est comme c'est... Non, j'appelle personne.
Jean-Jacques Goldman avait fait un truc formidable sur une tournée. Il avait acheté une pleine page dans un journal au tout début de sa carrière. Ouais. Et il avait fait une tournée qui avait été évidemment un énorme succès. Il avait repris toutes les critiques sur son compte. Voilà. À l'époque de Il suffira d'un signe quand la musique est bonne et ainsi de suite. Ouais. Et il les avait reprises avec voix de châtrée, chant de fou, devrait arrêter. Mais en mettant simplement le nom du journaliste et le nom du journal. Et
toute, son téléphone.
Et toute la page n'était faite que de mauvaises critiques. Et au milieu, il avait simplement écrit comme ça à la main, merci d'être venu juger par vous-même. Signé JJG.
Ah, un hommage au public, quoi.
Voilà, c'était magnifique. Ça avait calmé tout le monde.
Ah, ouais, c'est sûr. Mais voilà, wow. Faut être Jean-Jacques Goldman, quoi.
Jean, ouais, c'est ça.
Il y a que
Jean-Jacques
Goldman. Ça.
Ouais. Ah, j'espère ouais, surtout clair. Qu'on n'aura pas autant de mauvaises critiques. Voilà. Pour l'instant, ça va, on croise les doigts.
Voici Daniel Moin.
Oh, mesdemoiselles, quel dommage. Quoi? Quel dommage que vous n'ayez pas été programmée en fin de semaine dernière. Ça aurait été tellement plus cool pour vous, cette émission. Figurez-vous que Nagui était à faune. Oui, à faune, vous vous rendez compte, Nagui à faune. Nous, quand on nous a annoncé ça, le sentiment était unanime. Dans nos esprits, Nagui à faune, ça a résonné comme ça. Quel ne chien. Plus entendre le son de sa voix, ne plus l'entendre dire tout, n'importe quoi, puis son contraire, le tout dans un français aussi pauvre qu'hésitant, pendant 90 minutes sur une émission qui en dure 80. Waouh! Ben bon, toutes les vacances ont une fin. Et la force est de constater que Monsieur Guy va mieux. Bref, on va pas passer non plus que la fin de l'émission là-dessus. Non, figurez-vous qu'en ce moment, je flippe. Comme le dit souvent Nagui, il faut toujours se méfier de ces salauds de Chinois. Mais si, en permanence. Ce week-end, les autorités chinoises ont nié avoir espionné les filiales d'Airbus pour leur piquer des plans. Plusieurs sources ont pourtant identifié un groupe de cyberespionnage à la solde du gouvernement chinois, mais ce dernier continue de nier. Les Chinois se disent même choqués qu'on les soupçonne. Tu as tellement raison, Leïla, quand tu dis que ce peuple est fourbe. Mais tout ça, c'est dans l'air du temps. J'ai moi-même le sentiment d'être en permanence surveillé, épié, espionné. Ça a commencé avec mon épouse, Moumoun, en qui j'ai toute confiance et qui apparemment n'éprouve pas le même sentiment à mon égard, puisqu'elle a fait poser sur mes slips une puce électronique qui me géolocalise et qui lui envoie un SMS à chaque fois que je retire mon sous-vêtement. En même temps, c'est malin. Que veux-tu répondre avec panache quand on te demande pourquoi tu as enlevé ton slip jeudi à 18h06, chambre numéro 12, à l'hôtel Formule 1 de la porte de Montreuil? Hein? Ah, et s'il y avait quelqu'un qui me fliquait, c'est vrai. Mais il y a aussi le boulot, avec les coups de fil incessants du rédacteur en chef de notre émission, la BO, le fameux Jean-Baptiste Bussière, qu'on surnomme affectueusement Adolphe. Le gars nous appelle 20, 30 fois par jour pour nous demander où on en est de nos chroniques, d'insister pour savoir si on a vu le film, lu le livre, assisté à la pièce, écouté l'album. C'est insupportable.
Mais ça s'appelle le travail, monsieur.
Même en pleine nuit, ça va à toi les Chinois. Hein. Même en pleine nuit, le gars peut te harceler. Oh, enfin, mon plumard. Oh, merde à la fin. Allô?
Allô, Daniel, c'est Jean-Baptiste.
Qui ça?
Adolphe.
Il a pas cette voix.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles à 1h du mat? Nagui est mort, c'est ça? Il a pas supporté le départ de Chirac?
Non, tu sais que j'appelle pas pour les bonnes nouvelles. Je voulais te demander si tu avais vu le film de Géraldine Nakache et de Leïla Bekti.
Non. Et puis là, c'est mort, j'ai plus le temps, l'émission est demain.
Il te reste 10 heures, tu as largement le temps. Et ce serait bien pour l'émission. Et si tu m'obéis, peut-être que je ne dirai rien à Nagui pour toi et l'affaire des stagiaires séquestrés.
Tu te fous de ma gueule? C'est lui qui m'a demandé d'enfermer les stagiaires dans la cave pour sa soirée innocence et humiliation.
Alors peut-être sera-t-il plus intéressé par ta présence avec sa femme jeudi à l'hôtel Formule 1 de la Porte de Montreuil.
Comment tu sais ça, toi?
Tout simplement parce que je couche avec ta femme.
Oh, eh ben tout ça, Moumoun Adolphe, en fait c'est rien par rapport à ce qui m'arrive professionnellement. Ça fait plusieurs fois qu'on me rapporte que des humoristes chinois font des blagues sur Nagui et utilisent comme un personnage une certaine Moumoun. Ça sent le plagiat. Alors j'ai vérifié, en ce moment Gad Elmaleh n'est pas en tournée en Chine, ce qui veut dire que c'est localement qu'on me pille. Méfiez-vous les amis, attention Tanguy, attention Jérémy, attention Tom, Tagao est dans la place. Tagao, ça veut dire Big Brother en chinois. À demain.
Merci.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
J'irai, tu iras, il sera temps. J'irai, tu iras, qu'importe ma place, qu'importe l'endroit.
Leïla Bekti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit, Pascal Arbillot, Célia Pilastre, Romain Francisco, Johan Toledano, Vincent Darmusé, Jean-Gabriel Norman, entre autres dans ce casting de ce film qui est une comédie dramatique. Vous rirez, vous pleurerez, mais vous vivrez toutes ces émotions et vous sortirez pas totalement indemne, mais pour votre bien finalement, si ça renoue des liens qui se sont un tout petit peu Distendu, ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette émission, de ce film, Leïla ?
Bah, que j'attends. Bah, c'est les pères, hein, toujours. Hein. C'est un truc qui me colle la chialade, mais pour toujours, quoi. C'est-à-dire que je dis pas que les rôles sont pas intéressants, tout ça, mais les passages avec Patrick Timsit, moi, ça emporte absolument tout. Ouais. Et c'est ce que je garde, tout ce qui brille. C'est assez rare pour moi d'avoir des scènes de films très, très clairement fixées. Quand il s'agit du paternel, ça y est, c'est pour toujours.
Daniel Morin ?
Moi, j'en ai retenu que Patrick Timsit, j'adorerais que ce soit ma sœur.
Très bien.
Tom Villa,
la phobie d'Eila, les petites souris, donc aucun resto parisien ne peut l'accueillir. Je crois que...
Tanguy, Fassiro.
Bah, qu'il faut que je me méfie, parce que moi, je pleure très facilement. J'avais déjà pleuré à la fin de Camping quand Franck Dubos dit à Gérard Lanvin que les gens dans le camping sont simples mais humains, finalement. Donc, voilà. Je me méfie parce que je suis un mec quand même, j'ai pas envie qu'on me voit m'effondrer.
T'es fragile. Voilà, Jérémy, Crédville.
Moi, il faut que je parle un petit peu plus à ma famille et surtout qu'il faut être catégorique.
Ouais, puis pour reprendre la phrase de Louis Chédid, il faut dire aux gens qu'on les aime quand on les aime quand ils sont là, quoi. Faut pas non plus.
Il l'a dit mieux que ça, je crois.
Ouais, ouais. Il l'a chanté surtout. Ouais. Il l'a chanté. Qu'est-ce que vous aimeriez, Leïla Bekti, entendre à la sortie de. Quelqu'un du public à la sortie du film dirait quoi?
Je crois que j'ai envie qu'on se sente mieux, parce que moi, en tant que spectatrice, j'adore sortir d'un film en me sentant mieux. J'ai pas la prétention de dire que ce film va. Changer la vie des gens, mais en tout cas s'il peut rendre leur vie un peu plus douce, j'en serais très heureuse.
Géraldine Nakache, qu'est-ce que vous aimeriez entendre sur votre film ?
Écoutez, moi j'ai écrit ce film parce que je me dis en boucle, pour m'aider aussi quotidiennement dans ma tête comme un mantra, je me dis on reste toujours, parce qu'on reste toujours, j'en suis convaincue.
En tout cas, compliment pour ce premier film qui est votre troisième.
Oui, c'est ça.
Non mais c'est vrai, parce que là maintenant, vous volez de vos propres ailes.
Ouais, c'est vrai.
Et en termes de réalisation aussi, parce qu'on a parlé beaucoup du fond et pas tellement de la forme, mais il faut pas négliger aussi ce travail-là.
Merci beaucoup.
Demain, j'irai où tu iras.
Au cinéma.
Pas avec toi, oui, Daniel. Des excuses à présenter?
Oh oui. Désolé déjà pour Géraldine Nakache qui a pu voir ce matin le respect que Leïla Bekti avait pour l'amitié, le travail de son ami. Ça va, 15 minutes de retard, c'est rien. Enfin, si, c'est quand même beaucoup, 15 minutes. Désolé pour Leïla Bekti qui ne le sait pas, mais qui pendant ces 15 minutes de retard s'est faite pourrir par son ami. Oh, l'amitié, tout ça, c'est pas grand chose, hein. Comme si c'était important. Désolé pour nos auditeurs sains d'esprit qui ont pu remarquer que ce matin, on avait comme invité, rapport au permis de conduire, au ménage, au rat, une belle paire de psychopathes. C'est bon, hein, c'est pas un hôpital aujourd'hui. Hein. Heureusement, demain, on fait dans la stabilité, le calme, la sérénité, on reçoit Jamel Debbouze. Désolé pour nos amis chinois, Nagui a été odieux, c'est vrai, en même temps, comme le dit Leïla, vous êtes quand même sacrément fourbes.
Merci beaucoup, mademoiselle. Merci encore à vous. Demain au cinéma, j'irai où tu iras. Passez une bonne journée tout de suite. Et Carmen Campagne de Philippe Bertrand sur Internet.